PME Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants des petites et moyennes entreprises, co-animée par Alain Marty et Pauline Riglet, en partenariat avec GFIP, Inextenso Finance et Inextenso PME.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de PME Radio. Vous êtes plus de 28 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, comme vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte X PME Radio-TV. À mes côtés pour co-animer l'émission du jour, Guillaume Dosinel, dirigeant associé de GFIP. Bonjour Guillaume.
Bonjour Pauline.
Ainsi que Johan Medloul, directeur associé d'Inextenso Finance. Bonjour Johan.
Bonjour Pauline.
Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Baptiste Rébier, directeur général de Fermob. Bonjour Baptiste.
Bonjour.
Alors Baptiste, vous avez fait des études de droit et de sciences politiques à Lyon, puis un MBA à la Sorbonne. Et très vite, à 26 ans, vous intégrez la société Fermob. 7 postes en 15 ans. Alors un petit mot quand même sur ses débuts au sein de Fermob et surtout sur cette très belle ascension.
Alors, merci, une belle ascension parce que c'est une entreprise familiale qui avait été reprise par mon père il y a 35 ans. Et donc, j'ai été attiré par l'idée de rejoindre l'entreprise et puis d'y faire mon parcours. Donc, évidemment, avec une idée de reprise qui est venue progressivement. C'est-à-dire qu'au début, je suis rentré dans cette entreprise, je dirais, par intérêt du produit, intérêt de la vente, puisque j'étais sur des fonctions commerciales. Et puis après, j'ai petit à petit, émis l'envie de poursuivre, de monter et puis de prendre plus de responsabilités. D'où le fait, mais assez naturellement, d'avoir au final sept postes différents en 15 ans et puis d'élargir mes fonctions au niveau commercial avec davantage d'international au fur et à mesure avant de progressivement d'en prendre la direction générale. Mais sans que ce soit écrit d'avance, j'ai d'abord voulu être certain, on va dire, d'être motivé, d'en avoir l'envie et de me sentir compétent avant de franchir les étapes.
Faire vos armes.
Voilà.
Pour nos auditeurs, alors un mot sur Fermob. Vous êtes un industriel, concepteur et fabricant de mobilier outdoor en métal. Vous aménagez les terrasses, les places, les jardins. Vous avez environ 500 salariés, c'est ça?
Voilà, 500 salariés au niveau du groupe. On a 3 usines qui sont situées autour de Lyon. Effectivement, on est fiers de revendiquer un statut de fabricant. Mmh. On est créateur, c'est-à-dire qu'on design, on crée des nouveaux produits chaque année, mais on les fabrique, on a une fabrication qui est très intégrée. Et puis du mobilier de jardin, comme vous le dites, avec une activité saisonnière qui fait qu'au niveau de la fabrication, on a aussi des périodes de creux et puis des périodes très intenses en termes de fabrication, notamment en printemps et en été.
Alors, vous avez 3 marques distribuées dans 45 pays. Un petit mot, justement, dans le détail sur ces différentes marques, cette offre différente?
Oui, alors, on a aujourd'hui 3 sociétés dans le groupe. La principale, c'est Fermob, donc plutôt sur le mobilier en métal, avec une gamme de couleurs assez variée. C'est en général comme ça que les gens reconnaissent nos produits. On a ensuite une autre gamme qui est une autre marque qui est moins connue, qui s'appelle Vlaminck, mais qui est très connue de la clientèle d'hôtellerie et de restaurants haut de gamme, donc des produits plus d'équipements professionnels. Et notamment, les gens pourront s'en rendre compte en allant sur la Côte d'Azur, la société Vlaminck équipe l'ensemble des plages de la Côte d'Azur, avec les matelas, les parasols, les coussins, etc. Donc, en général, plutôt dans des moments sympathiques quand les gens les utilisent. Et puis une autre entreprise qui est pour nous aussi un sous-traitant industriel qui s'appelle Rodet et qui est également une entreprise qui fabrique du mobilier pour les collectivités et notamment qui équipe beaucoup de classes. Et donc avec une grosse période de pointe pour cette entreprise, c'est le mois d'août puisqu'il faut équiper toutes les écoles juste avant la rentrée. Donc la dernière quinzaine d'août est toujours une période de gros rush pour cette entreprise.
Donc ça fait vraiment un beau panel. Voilà. Guillaume Dosinel pour vous interroger aujourd'hui.
Comment l'innovation a-t-elle intégrée dans le processus de conception des produits Fermob?
Alors l'innovation, c'est un des piliers de notre stratégie. Nous ne sommes pas une entreprise de haute technologie, mais ça consiste, je dirais, très simplement à avoir une culture produit très développée et à sortir beaucoup de nouveautés produits chaque année. Et donc, on a un process qui est assez bien calibré, assez organisé, où on a de l'amont à l'aval plusieurs comités qui vont explorer des pistes plus théoriques dans le développement des nouveaux produits. Par exemple, tiens, on va vouloir faire des mobiliers, des ensembles hauts, des ensembles bas, et puis ensuite des comités plus opérationnels sur les projets et sur les développements des produits. Et puis, comment c'est organisé ? Tout simplement parce qu'on y met de la ressource humaine. On a un studio design de 6 personnes. On a ensuite une équipe de développement technique d'une dizaine de personnes, une équipe marketing assez fournie aussi. Donc, voilà, on parle beaucoup de l'investissement en R&D. L'investissement humain, c'est aussi un vecteur clé quand vous avez la vocation d'être innovant et de sortir beaucoup de nouveautés.
En tant qu'entrepreneur investi dans les cercles des entreprises familiales, quelle opportunité cela vous offre-t-il ?
Alors effectivement, on est assez investi dans ces cercles-là. Voilà, moi aujourd'hui, je représente la deuxième génération au sein de Fairmob. Et puis avant Fairmob, mon grand-père, mon arrière-grand-père, enfin, on était dans une famille d'entrepreneurs, plus dans l'agroalimentaire. Mais voilà, on a cette culture-là, cette fibre-là. Et dans ces cercles-là, ce qui est intéressant, c'est que vous échangez sur les modèles familiaux, sur les modèles de transmission, sur les modèles de prise, de passage d'une génération à une autre. Et en général, c'est très intéressant parce que ce sont des sujets qui sont plus personnels, en fait, que très opérationnels ou stratégiques. Et donc, ces cercles-là permettent d'échanger tout simplement et de se rendre compte qu'on a souvent beaucoup de points communs. En général, la nouvelle génération, parfois, n'ose pas communiquer avec celle du dessus pour dire « j'aimerais prendre la suite » ou « qu'est-ce que tu penserais de mes nouvelles idées ?» etc. Et donc, on s'y retrouve en général. On voit qu'on franchit tous les mêmes étapes à un moment donné. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir partager sur ces éléments-là.
En quoi votre modèle est-il considéré comme inspirant dans le contexte du changement climatique, de la biodiversité et de la décarbonation ?
Alors, inspirant, c'est, on va dire, modestement, effectivement, on espère pouvoir l'être. En tout cas, on le fait avec humilité, mais nous, ce qu'on met en avant, c'est un modèle d'un produit extrêmement durable et le plus respectueux possible de l'environnement. Et c'est avant tout un modèle qui est guidé sur le long terme, avec un principe tout simple, c'est vous achetez un mobilier Fairmob, entre guillemets, pour toute votre vie. C'est souvent un investissement un petit peu plus cher qu'un mobilier d'entrée de gamme qui demande un petit peu plus de ressources au démarrage, mais que vous allez pouvoir garder toute votre vie, que vous allez pouvoir réparer, repeindre éventuellement, pour vraiment le conserver, éventuellement même le transmettre à une autre génération. Et puis, c'est un modèle en termes de fabrication sur lequel on a intégré des principes d'éco-conception et d'utilisation la plus vertueuse possible des matières depuis plusieurs décennies. Voilà, de l'éco-conception, on en fait depuis 35 ans. Quand on peint nos produits, on a une chaîne de peinture qui est zéro rejet depuis 25 ans. Le recyclage des produits, la réparabilité, on est à plus de 95% depuis 15 ans. Enfin voilà, c'est tous ces éléments-là. Et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, de manière générale, elles ont la responsabilité de, je dirais, modestement partager ce qu'elles font bien pour en inspirer d'autres. Et nous, ce modèle responsable et durable, quitte à parfois vendre moins mais mieux, nous paraît intéressant et c'est des choses qu'on aime bien partager.
Yuan, vous avez, vous aussi, des questions pour notre invité.
Pourriez-vous nous en dire plus sur votre actionnariat actuel et qu'est-ce que cela vous apporte dans votre approche commerciale et industrielle ?
Alors, l'actionnariat chez nous, il est depuis toujours très majoritairement familial. Voilà, en gros, c'est le dirigeant qui est l'actionnaire principal. Ça a été mon père, moi, c'est moi le dirigeant désormais. Et ça rejoint une caractéristique d'entreprise familiale. Ça nous donne le luxe du temps long, de la stabilité et du fait que les décisions de l'actionnaire sont les mêmes que les décisions de l'équipe dirigeante. Donc, ça aligne les intérêts et ça permet d'être à la fois dans le temps long et dans la réactivité si besoin. Et puis récemment, on s'est associé avec une autre famille industrielle, voilà, auprès d'Alexis Despatures, famille Despatures qui voilà, une histoire autour de très belle entreprise d'Amar Somfy. Et puis Alexis Despatures a souhaité créer un pôle de développement autour de l'univers de la décoration. Et je dirais, à la manière de ce qu'on retrouve plus souvent en Allemagne ou en Italie, eh ben on s'est associés ensemble pour créer ce pôle de décoration, voilà, au sein duquel Fermob n'est pas inclus, en tout cas que de manière minoritaire. Mais voilà, ça nous permet d'allier les savoir-faire de nos deux familles au niveau industriel, financier, etc., pour avoir un projet de pôle d'entreprise dans cet univers de la décoration premium, on va dire.
Vous êtes très investi dans les sujets RSE, on l'a vu, auprès de vos salariés. Quelle est votre vision et vos actions en termes d'actionnariat salarié, justement, et de partage de valeur?
Alors, c'est un sujet très important, effectivement. Et je pense que, comme beaucoup d'entreprises, voilà, depuis quelques années, l'ensemble des entreprises s'emparent de ce sujet. Bon, avec une réflexion très simple de dire que l'actionnariat salarié est évidemment très positif, très fédérateur, etc. Mais c'est vrai que par le passé, c'était un peu plus l'apanage des grands groupes avec une liquidité du capital qui facilitait les choses. Voilà, nous en tout cas, on s'en empare. Et avec un plan d'action gratuite pour le moment, en fonction de l'ancienneté des salariés. Et pour faire simple, parce que c'est quand même des sujets techniques sur lesquels il faut être accompagné, mais pour faire simple, ce plan va faire que à peu près l'ensemble des salariés seront actionnaires de l'entreprise à horizon 3 ans. Et ça, c'est très intéressant. Enfin, c'est un projet qui est hyper, hyper positif, hyper fédérateur. Et puis ensuite, on verra à l'avenir comment ça évoluera. On s'est pas mal renseigné auprès d'autres entreprises qui avaient déjà fait mis en place des politiques d'actionnariat salarié. C'est pas simple, c'est assez technique. Donc, moi, je dirais aux autres entrepreneurs, voilà, parlez-en pas mal, faites-vous conseiller, échangez beaucoup là-dessus, parce que il faut un petit peu de temps pour trouver le bon modèle. Mais derrière, voilà, c'est hyper positif.
Votre société est résolument tournée vers l'international.
Oui.
Quelle est votre stratégie de déploiement à l'international, justement? Et avez-vous, dans ce cas, une stratégie de croissance externe?
Alors, notre stratégie à l'international, elle est très assumée, c'est-à-dire que c'est un des piliers de notre stratégie, pour une raison toute simple. Le mobilier de jardin, c'est un marché de niche, on va dire. Et donc, si on se contentait du marché français, bon, on serait assez vite au plafond de notre déploiement. Donc, c'est pour ça qu'il fallait avoir une dimension mondiale. Donc, il y a, un, cet aspect-là. Deux, cet aspect de... une fois qu'on a dit que le marché était mondial, on ne fait aucune différence entre la France et l'export. C'est-à-dire, tous les marchés se valent, tous les pays se valent, à part quelques différences linguistiques ou quelques jours de transport en plus. Sur l'Europe, il n'y a aucune différence. Sur le grand export, il y a quelques petits détails en plus à mettre en place, mais rien d'insurmontable. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est de dire d'y aller sans aucun complexe et aucune barrière. Et puis le troisième point sur cette stratégie, c'est de ne pas vouloir non plus s'éparpiller. C'est-à-dire que c'est bien de dire qu'on fait de l'international, c'est bien de dire aussi qu'on privilégie certains marchés. Voilà, et nous, c'est pas exotique, c'est pas aller à l'autre bout du monde, c'est se renforcer en Allemagne, se renforcer aux États-Unis, se renforcer en Angleterre. Donc voilà comment se conçoit cette stratégie.
Merci beaucoup, Baptiste Rébier, d'avoir répondu à nos nombreuses questions. Merci à vous, Guillaume et Johan. C'est la fin de ce numéro de PME Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. Et puis, on se retrouve jeudi prochain pour accueillir un nouvel invité. Merci.
L'invité de la semaine de PME Radio, une production B2B Radio, en partenariat avec GFIP, Inextenso Finance et Inextenso PME.